Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM.
Bonjour à toutes et à tous. Jeanne Boursier pour Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7 FM. Je constate que mon blog chroniquedunsiècle.com n'attire pas les commentaires. C'est dommage, j'aimerais échanger avec les auditrices et les auditeurs. En route qui dit, et il fonce, projetant à droite et à gauche tout ce qui se trouve sur sa trajectoire. Zazie galope derrière. Tonton, qu'elle crie. On prend le métro? Non. Comment ça, non? Elle s'est arrêtée. Gabriel stoppe également, se retourne, pose la valoche et se met à expliquer. Ben oui, non. Aujourd'hui, pas moyen, y a grève. Y a grève? Ben oui, y a grève. Le métro, ce moyen de transport éminemment parisien, s'est endormi sous terre, car les employés aux pinces performantes ont cessé tout travail. Ah les salauds, s'écrie Zazie. Ah les vaches, me faire ça à moi? Y a pas qu'à toi qu'ils font ça, dit Gabriel, parfaitement objectif. Je m'en fous! N'empêche que c'est à moi que ça arrive, moi qui étais si heureuse, si contente de toute ma les voitures, le métro, sacrebleu, merde alors! Faut faire une raison, dit Gabriel, dont les propos se nuançaient parfois d'un tomisme légèrement cancien. C'est un extrait de Zazie dans le métro de Raymond Queneau. La joie du métro dans les années 1960. Les sièges en bois. Le bruit assourdissant, le contrôleur dans le premier wagon qui vérifiait que toutes les portières étaient bien fermées et que personne ne tenterait de monter, les poignées chromées que je trouvais si jolies, la première classe et la deuxième classe, et le portique automatique qui se fermait à l'arrivée de la rame, empêchant ainsi une foule trop dense sur le quai, et le poinçonneur, celui que Gainsbourg a immortalisé.
Ici le poinçonneur des Lilas. Je suis le poinçonneur des Lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, pareil qu'il y a pas de sous-métier, moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des Lilas, pour invalide changer opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en ramène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour me sortir de ce trou, je fais des trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille. Et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis le poinçonneur des Lilas. Arts et métiers directs par le Valois. J'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fille de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr. Je pourrais m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il est plus temps, je partirai les pieds devant. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y'a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue. Se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou. Et je t'entendrai puis parler de trous, plus jamais de trous. De petits trous, de petits trous, de petits trous.
Les transports en commun, nos politiques ont tendance à l'oublier, sont un des grands progrès de notre civilisation. En 1875, Maxime Ducamp, dans son ouvrage sur Paris, constatait que les fiacres et les omnibus étaient devenus une sorte de service public dont l'importance sociale était la même que celle de la poste et des télégraphes. 148 ans plus tard, les télégraphes n'existent plus, la poste se meurt, restent les transports en commun, dont je ne pense pas que l'on puisse dire qu'ils soient une sorte de service public, en raison des prix exorbitants qu'ils pratiquent. C'est en 1662 qu'après avoir obtenu l'autorisation royale de Louis XIV, Blaise Pascal, le philosophe et mathématicien janséniste, créa les carrosses à 5 sols. C'est la première expérience de transport en commun urbain. Paris était donc la première ville au monde à se doter de 5 lignes qui reliaient plusieurs quartiers grâce à des voitures à 8 places tirées par 4 chevaux, conduites par un cocher et un laquais dont les casaques étaient aux armes du roi et de la ville de Paris. Les véhicules suivaient un itinéraire fixe avec des départs à intervalles réguliers de 7 minutes et demie et des arrêts tout au long du trajet à la demande pour laisser monter ou descendre les voyageurs. Malheureusement, en désaccord avec l'édit royal, le Parlement de Paris émit un édit consistant en des restrictions sur les voyageurs. Soldats, pages, laquais et autres gens de livrée, même les manœuvres et gens de bras, ne pourront entrer les 10 carrosses pour la plus grande commodité et liberté des bourgeois et gens de mérite. À cette restriction s'ajouta l'augmentation du prix du ticket. Ces deux décisions provoquèrent hostilité et violentes manifestations. La police menaça du fouet et de grandes punitions. Résultat, ce progrès social disparut rapidement et laissa la place aux transports individuels. À savoir le fiacre, les voitures de remise qu'on louait un mois, les chaises à porteurs ou encore la vinaigrette. Ah, la vinaigrette, c'était une caisse de voiture sur deux roues traînée par un homme et poussée par derrière par une femme ou un enfant. Puis les chaises de poste pour voyager rapidement. Mais revenons sur le fiacre. Le fiacre est en quelque sorte l'ancêtre du taxi. C'est en 1640 que Nicolas Sauvage établit des carrosses toujours attelées et stationnaires. Évidemment, cela fait irrésistiblement penser aux stations de taxi. Le nom de fiacre vient de l'hôtellerie Saint-Fiacre, devant laquelle se trouvait ce louage. Cela eut un tel succès que le numérotage des fiacres fut bientôt ordonné, permettant ainsi de se plaindre auprès du lieutenant de police d'un cocher indélicat. Cela permettait aussi, en cas d'oubli, de s'adresser au bureau des réclamations qui vous restituait l'objet. De même pour le prix de la course, les cochers se permettant d'exiger des sommes abusives, en 1720, une ordonnance fixa un tarif. Si l'on en croit Louis-Sébastien Mercier, cet écrivain du XVIIIe siècle qui a laissé un portrait détaillé de Paris dans le tableau de Paris, le fiacre, en 1781, était inconfortable et sale. Les cochers, ivres à partir de l'après-midi, et le fiacre servait d'asile aux amants. Un service classique que l'on retrouve chez Flaubert dans Madame Bovary et dans la chanson de Léon Xanroff en 1888, Le Fiacre, interprété ici par Yvette Guilbert en 1930.
Un fiacre à les trottinots jaune avec un cocher blanc. Derrière les stores baissés, quinquet, il y a top là. Derrière les stores baissés, on entendit des baisers. Et puis une voix disant Léon, quinquet, oh là. Et puis une voix disant Léon, mais tu me fais mal, ô ton lorgnon. Un vieux monsieur qui passait, quinquin, tiens, hop là, un vieux monsieur qui passait, s'écrit, mais on dirait que c'est ma femme dont j'entends la voix, quinquin, tiens, hop là, ma femme dont j'entends la voix, il se lance sur le pavé en bois. Mais il glisse sur le sol mouillé, quinquin, tiens, hop là, mais il glisse sur le sol mouillé, crac, il est escrabouillé. du fiacre une dame sort et dit quinquaïtia, hop là, du fiacre une dame sort et dit oh chouette Léon, c'est mon mari. Y'a plus besoin de nous cacher, quinquaïtia, hop là, y'a plus besoin de nous cacher, oh donne donc 100 sous à se cocher.
Le fiacre en 1875 appartenait à la Compagnie Générale qui se composait de 6815 agents, dont 160 employés de bureau, 160 surveillants, 900 ouvriers d'atelier, 180 maréchaux, 900 laveurs, 200 graisseurs, 500 palefreniers, 3925 cochers. Et non seulement elle entretenait ses fiacres et ses chevaux, mais elle construisait aussi ses propres voitures. En 1866, 3200 fiacres en circulation pour 1 178 488 000 journées de travail. Et ces 3200 voitures demandaient 10 741 chevaux. Bref, une véritable entreprise qui sera peu à peu remplacée par les taxis qui gagnèrent leur célébrité lors de la bataille de la Marne en 1914. Un petit intermède avec une chanson qui accompagna les poilus. Auprès de ma blonde, interprétée ici par Armand Mestral.
Dans les jardins de mon père, les lilas sont fleuris.
Dans les jardins de mon père, les lilas sont fleuris.
Tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid. Auprès de ma blonde, il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, il fait bon dormir. Tous les oiseaux du monde viennent y faire leur vie.
Tous les oiseaux du monde viennent y faire leur vie.
La caille, la tourterelle et la jolie perdrix. Auprès de ma blonde, il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, il fait bon dormir. La caille, la tourterelle et la jolie perdrix.
La caille, la tourterelle et la jolie perdrix.
Et ma jolie colombe qui chante jour et nuit. Auprès de ma blonde, il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, il fait bon dormir. Et ma jolie colombe qui chante jour et nuit.
Et ma jolie colombe qui chante jour et nuit.
Qui chante pour les filles qui n'ont pas de mari. Auprès de ma blonde, il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, il fait bon dormir. Qui chante pour les filles qui n'ont pas de mari.
Qui chante pour les filles qui n'ont pas de mari.
Pour moi le chant de guerre, car j'en ai un joli. Auprès de ma blonde, il fait bon, fait bon, fait bon.
Auprès de ma blonde, il fait bon dormir.
Pour moi ne chante guère, car j'en ai un joli.
Pour moi ne chante guère, car j'en ai un joli.
Dites-nous donc la belle, où est donc votre mari. Auprès de ma blonde, il fait bon, fait bon, fait bon.
Auprès de ma blonde, il fait bon dormir.
Dites-nous donc la belle, où donc est votre mari.
Dites-nous donc la belle, où donc est votre mari.
Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris. Auprès de ma blonde, il fait bon, fait bon, fait bon.
Auprès de ma blonde, il fait bon dormir.
Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris.
Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris.
Que donneriez-vous belle pour avoir votre ami. Auprès de ma blonde, il fait bon, fait bon, fait bon.
Auprès de ma blonde, il fait bon dormir.
Donneriez-vous ma belle pour avoir votre ami.
Que donneriez-vous ma belle pour avoir votre ami.
Je donnerai Versailles, Paris et Saint-Denis. Auprès de ma blonde, il fait bon, fait bon, fait bon.
Auprès de ma blonde, il fait bon dormir.
Je donnerai Versailles, Paris et Saint-Denis.
Je donnerai Versailles, Paris et Saint-Denis.
Les tours de Notre-Dame et le clocher de mon pays. Auprès de ma blonde, il fait bon, fait bon, fait bon.
Auprès de ma blonde, il fait bon dormir.
Les tours de Notre-Dame et le clocher de mon pays.
Les tours de Notre-Dame et le clocher de mon pays.
Et
et ma jolie colombe pour avoir mon ami auprès de ma blonde. Il fait bon, fait bon, fait bon auprès de ma blonde. Il fait bon ami.
Après les carrosses à 5 sols en 1662, il fallut attendre 1826 pour qu'un certain Stanislas Baudry remît au goût du jour l'idée géniale de Blaise Pascal. Il ouvrit sa première ligne d'omnibus à Nantes, puis en 1827, la deuxième, à Bordeaux, car le préfet de Paris l'avait éconduit. Il fallut un changement de préfet pour que Paris puisse enfin inaugurer le 30 janvier 1828 sa ligne d'omnibus. Le nom « omnibus » vient du latin et signifie « pour tous ». Ces lourdes voitures étaient traînées par 3 chevaux, puis en raison des frais, par 2. De 14 places, on passa à 16, plus un strapontin. Ce fut un tel succès que les concessions poussèrent comme des champignons, certaines ne vivant que peu de temps, en raison de leur trop grande excentricité, dont il ne reste que des noms. Dame blanche favorite, béarnaise, dame réunie, les gazelles, les batignolaises, les constantines, etc. Aussi en 1855, une fusion s'opéra sous le patronage de l'administration municipale et la société formée pour cette exploitation eut le monopole exclusif du transport en commun dans Paris. Cette année-là, l'entreprise possédait 347 voitures qui transportèrent 36 millions de voyageurs. 11 ans plus tard, cette même entreprise possédait 664 voitures qui transportèrent 107 212 074 voyageurs. En cette année 1866, il faut ajouter la banlieue, 3 430 252 voyageurs, et les omnibus sur rail, c'est-à-dire les ancêtres du tramway, 1 401 474 voyageurs. Cela fait un total de 111 743 800 voyageurs par an. Les transports en commun en cette seconde moitié du 19e siècle fonctionnaient plutôt bien. Voici une anecdote sur le peintre Degas qui prouve que les voyages dans ces omnibus devaient être extrêmement agréables. Du temps des omnibus à chevaux, Degas avait du plaisir à monter dans la voiture à la tête de ligne qui était près de chez lui et à y rester pendant tout le trajet. Généralement, il montait place Clichy et allait jusqu'aux Feuillantines à l'autre bout de Paris. Il regardait les gens, leurs gestes, leur physionomie, leurs costumes, les bizarreries de leurs accoutrements. Il s'amusait de tout cela et de penser qu'il voyait tant de personnes, tant de figures nouvelles et pendant si longtemps pour 6 sous. Au point extrême, qu'à ce moment on n'appelait pas encore terminus, il descendait, prenait une tasse de lait chez le bistrot du coin, puis il remontait dans la voiture et il rentrait chez lui par le même moyen économique. Venu des États-Unis qu'il utilisait depuis les années 1830 à New York et à la Nouvelle-Orléans, le tramway à Paris fit d'abord quelques essais timides pour l'exposition universelle de 1855, puis pour celle de 1867. C'est seulement en 1880 que les TVM, tramway pour voyageurs et marchandises, attractions hippomobiles ou mécaniques, sont instituées par la loi de 1880. Dans Notes et souvenirs écrits en 1889, Ludovic Halévy rapporte la conversation d'un conducteur de tramway.
« J'ai entendu ces jours derniers un cocher de tramway dire très énergiquement, en peu de mots, son opinion sur le suffrage universel. J'étais sur l'impérial du tramway, tout près du cocher, qui causait avec un voyageur. Mais cette causerie n'était qu'un monologue, car le voyageur ne soufflait mot et jouait docilement, avec des sourires et des gestes d'approbation, le rôle de confident muet. » Le cocher parlait, 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 répétant toujours la même chose. « Pour mener ces voitures-là, voyez-vous, c'est pas la peine d'être coché. On est là, emboîté dans deux petites rigoles. C'est pas moi qui mène mes chevaux, c'est mes chevaux qui me mènent. Autrefois, avant la guerre, j'étais dans une grande maison. Là, il fallait être coché. Mais ici, il n'y a qu'à laisser rouler. Seulement, il faut avoir du tac. » Il voulait dire du tact. « Il faut pouvoir apprécier le danger à 30 mètres devant soi. Il faut le deviner. Puis on a affaire à de tels idiots. C'est pas à moi de me déranger. Je peux pas, je suis emboîté. C'est à eux, les idiots. Eh bien, n'est-ce pas ? Une supposition. Là, une charrette qui se trouverait devant moi, menée par une brute, par un homme de la campagne. Je me mets à corner, à corner, à corner. Et en disant cela, notre cocher, pour ajouter à l'effet de son récit, pressait du pied la pédale de son cornet et faisait un vacarme de tous les diables. Les autres voyageurs de l'impérial, qui n'entendaient pas le monologue, ne comprenaient rien à cette musique enragée. Pas un obstacle, pas une voiture devant le tramway. Pourquoi ce tapage ? Le cocher, après avoir suffisamment corné, continua son récit. Il ne se dérange pas les animaux. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a envie de les enlever, de leur passer dessus, de les mettre en bouillie. Si on ne le fait pas, c'est par humanité. Non, voyez-vous, c'est un métier stupide. C'est-à-dire que ça me fait honte quand je rencontre de mes camarades d'autrefois, des cochers qui sont dans de grandes maisons, des cochers qui sont des cochers, enfin. Ils recommençaient indéfiniment son même discours dans les mêmes termes. Quand tout d'un coup, au coin d'une rue, une charrette se plante devant le tramway. Et sans se soucier des cris, des coups de fouet et du cornet du cocher, continue paisiblement son chemin au pas, au tout petit pas. C'était une charrette avec une bâche, une voiture de la halle, quelques maraîchers sommeillaient probablement là-dessous. Notre cocher écumait. « Né, en voilà un de ces idiots, un de ces abrutis !» Le cornet faisait un tapage d'enfer. La voiture enfin se dérange, nous laisse passer, et le cocher désignant le conducteur de la charrette, avec un geste de mépris, prononce cette parole admirable et dire que ça vante.
Un petit intermède avec la vie parisienne, dont la musique fut composée par Offenbach, et les paroles écrites par Ludovic Halévy et Henri Meillac.
Et vive la vie parisienne !
Et vive la vie parisienne !
Dans la ville, on trouverait, y croit, quelques maisons tranquilles, pleines de bons bourgeois. Ces dignes personnages ne font pas comme nous. Ils disaient qu'ils sont sales, nous disons qu'ils sont fous. Et pif,
et pouf,
et pif,
et pouf,
et pif,
et pouf,
et pif,
et pouf.
Ah, oui, voilà, voilà la vie parisienne du plaisir, à perte d'haleine. Oui, voilà. Voilà la vie parisienne, voilà, 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 le bonheur est là.
Oui, voilà, voilà la vie parisienne, le plaisir, à l'entour de la ville. Oui, voilà, voilà la vie parisienne, voilà, 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 le bonheur est là.
Des amants, des maîtresses qui s'émeutent en riant, des serments, des promesses qu'emportera le vent, des chansons qui papillent, des baisers pris et rendus, des flacons qui pétillent en avant les grands prix.
Et puis,
et pif,
et pouf,
et pif,
et pouf,
et pif,
et pouf,
et pif,
oh, oui, voilà, voilà la vie parisienne du plaisir, à perte d'haleine.
Oui, voilà, voilà la vie parisienne, voilà, 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 le bonheur est là.
Aujourd'hui, combien de gens se plaignent du vol dans les transports en commun ? Rassurez-vous, au XIXe siècle aussi, les pickpockets sévissaient dans les omnibus. En revanche, pas de fraude. La raison en est sans doute au prix très raisonnable que l'entreprise pratiquait. Je rappelle que son but était le transport de la population à peu de frais. Maxime Ducamp conclut son chapitre sur les omnibus par cette réflexion. La Compagnie Générale des Voitures et l'entreprise des Omnibus sont aujourd'hui deux organes essentiels de la vie de Paris.
Elle représente la locomotion rapide et facile. Ces deux services, entourés par l'autorité de toutes les garanties désirables, améliorés chaque jour par les efforts des administrateurs, sont devenus pour les Parisiens un objet de première nécessité. À toute heure, quel que temps qu'il fasse, nous trouvons à notre disposition ces véhicules nombreux qui épargnent nos heures, notre fatigue et aident singulièrement aux transactions de toute espèce. Paris sans voiture serait paralysé et ne pourrait plus se mouvoir. L'inénarrable Eric Satie composa en 1905 une chanson, L'omnibus automobile, que je vous laisse écouter.
C'était pendant l'horreur du 14 juillet, il faisait chaud, très chaud sur la place Pigalle. Un gros ballon sans bruit, gravement ambulé par la route céleste, unique et nationale. Il faisait soif, très soif, et le petit jet d'eau, esclave du destin, montait de bas en haut. Il était environ 9h35, la douce nuit venait de tomber avec grâce, et le petit jet d'eau pleurait sur le bassin, lorsque je vis passer au milieu de la place un omnibus automobile, entendez-vous, avec de grands yeux verts et rouges de hibou. L'omnibus était vide et l'écrit au complet, détaché sur fond bleu, c'est cette lettre de flamme. Je suivis au galop le monstre qui passait, en écrasant avec des airs d'hippopotame des femmes, des enfants, des chiens et des sergots, des députés et des tas d'autres animaux. Il s'arrêta, place de l'Opéra, et je vis qu'il était chargé de sacs de plâtre. Ces sacs, me dit le conducteur, ces sacs sont là pour remplacer le voyageur acariâtre. Nous faisons des essais depuis plus de 20 mois, et ces sacs sont pour nous autant de gens de poids. Pourquoi dis-je au bon conducteur de l'auto qui venait d'écraser ces piétons anonymes? Pourquoi ces sacs plutôt que ce cher populo? C'est, me répondit-il sur un ton de maxime, c'est voyez-vous, pour éviter des accidents de personnes qui pourraient bien être dedans. C'était pendant l'horreur du 14 juillet, il faisait chaud, très chaud sur la place Pigalle. Un gros ballon sans bruit, gravement ambulait par la route céleste, unique et nationale. Il faisait soif, très soif, et le petit jet d'eau, prisonnier du destin, montée de bas en haut.
Je ne parlerai pas dans cette émission du métro qui mérite une émission pour lui tout seul. Je terminerai donc par ce que fit la préfecture lorsque la compagnie générale et l'entreprise n'arrivaient pas à faire face aux affluences extraordinaires de l'exposition universelle, et cela malgré leurs efforts. Les usagers en pâtissaient et rouspétaient. Oui, à l'époque, les voyageurs étaient écoutés et leurs plaintes entendues. Mais c'était il y a 148 ans. Donc, la préfecture de la Seine et la préfecture de police, faire face à cette affluence, créèrent les mouches, que l'on appelle aujourd'hui les bateaux-mouches, qui transportaient quand même 10 000 2000 personnes par jour et toujours à un prix très modique. L'on ne nous fera pas croire qu'en 2023, on ne peut être aussi performant. Allons, bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier.
Sur Radio Boomerang 89.7 FM.